Costa Miranda.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Agathe Kakaoué. C'est l'heure de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité, la tranche des informations qui ont marqué la semaine. À la présentation, vous serez avec Karim de Sabé. Soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bienvenue encore une fois si vous nous rejoignez dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Le 30 août, c'était la journée internationale dédiée aux victimes de disparitions forcées. Au Burundi, au moins 81 personnes ont été portées disparues durant les deux années de règne du président Évariste Ndayishimiye. Bilan dressé par la campagne Ndondeza du Forum pour la conscience et le développement. Dans une lettre au président Ndayishimiye, le Fokote fait remarquer que le nombre de victimes a augmenté de 38% par rapport aux deux dernières années de pouvoir de Pierre Nkurunziza. On écoute Pacifique Nina Azugwe, président du Fokote.
Nous avons montré l'augmentation exponentielle des cas de disparition forcée au cours des deux dernières années du régime du président Ndayishimiye. Nous avons comparé les chiffres des deux dernières années du régime Nkurunziza et les chiffres des deux ans du président Ndayishimiye, et nous avons trouvé une augmentation de près de 40% des cas de disparition forcée sous le gouvernement Ndayishimiye. Donc là, il n'y a rien à féliciter, il n'y a rien à se réjouir. Nous avons aussi montré quels sont les corps qui sont impliqués dans ces disparitions forcées. En premier lieu, il y a le renseignement militaire. 51% des cas que nous avons documentés au sein du Fokode ont été commis par des agents du renseignement militaire. Ensuite vient la milice Imbonerakure et certaines autorités du parti CNDD-FDD qui ont joué un rôle extrêmement important, soit en collaborant avec d'autres corps de l'État qui opéraient des enlèvements ou bien en organisant eux-mêmes des disparitions forcées des citoyens. En troisième lieu, sur le service national de renseignement, ici nous avons noté que ce service ne quitte plus la première place dans les disparitions forcées et qu'au cours de l'année 2021 et 2022, on remarque que ce service a été très peu impliqué dans les disparitions forcées. Il y a aussi la police nationale du Burundi qui a été impliquée dans les disparitions forcées à hauteur de 4% des cas documentés par la campagne Ndondeza.
Ce sont des pertes de vie et les familles des victimes restent dans la désolation totale. C'est par ces mots que Jérémy Minani, président du parti de l'opposition RDB, déplore la disparition des citoyens innocents, crime selon lui orchestré par des forces de l'ordre qui devraient les protéger. Pour lui, l'État burundais devra tôt ou tard répondre de ses actes. Écoutez.
Depuis l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir, nous avons constaté l'apparition du phénomène de dispersion forcée. Des citoyens sont arrêtés par un service de renseignement, par un service de l'école de défense de sécurité et ne réapparaissent plus. Ce phénomène a commencé depuis 2006, il a continué jusqu'en 2015 et en 2015 il a pris une ampleur exceptionnelle. Et le point commun entre ces distractions, c'est que l'État garde le silence, les familles des victimes continuent d'attendre. Le gouvernement doit comprendre qu'aucune circonstance ne peut justifier qu'une personne soit arrêtée et portée disparue. Les familles des victimes ont droit à une réponse, ils doivent savoir où se trouvent les leurs, ils doivent savoir ce qui est arrivé à leurs proches arrêtés et portés disparus. La responsabilité de l'État est immense dans ce crime de disparition forcée parce que les personnes arrêtées ont tous en commun le fait de ne pas appartenir au parti CNDD-FDD, de ne pas être des militants du parti CNDD-FDD. Donc nous avons un régime qui est responsable de ce crime de disparition forcée, le gouvernement de M. Ndayishimiye, et M. Ndayishimiye lui-même doit comprendre que le crime de disparition forcée, c'est un crime international imprescriptible. Ceux qui sont responsables de ce crime doivent comprendre que tôt ou tard, ils devront répondre de ce crime.
De son côté, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi rassure. Selon le CAVIB, les dossiers sur les disparitions forcées au Burundi suivent leur cours normal dans les juridictions internationales. L'organisation se dit confiante que tôt ou tard, les auteurs finiront par répondre de leurs actes.
Inzamba.
Les temps de servitude pénale, c'est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de l'Otana contre 5 hommes. Ils sont condamnés après leur arrestation, alors qu'ils acheminaient des enfants en République unie de Tanzanie. Des sources au sein de la police burundaise disent que ces personnes seraient en réseau avec des Tanzaniens qui reçoivent les enfants pour des travaux forcés. Le point avec Josine Kaze.
Selon des informations en provenance du tribunal de grande instance de Lutana, Epipo de Majambere, Eric Twivukimana, connu sous le sobriquet d'Abdoul, Pascal Nivigira, Ephrem Ninganza et Jean Daïchimier ont été condamnés à 7 ans de servitude pénale. Leur condamnation est tombée dans l'après-midi de ce mercredi 31 août lors d'un jugement en flagrance. Ils sont accusés par le ministère public de traite humaine. Ils avaient été arrêtés par la police il y a 2 semaines avec 20 enfants mineurs, tous originaires de la province Ngozi. Ces enfants allaient être acheminés vers la République unie de Tanzanie pour faire des travaux forcés selon le ministère public. Une source au sein de la police affirme que ces enfants partent à l'insu de leurs parents avec probabilité de ne plus retourner chez eux partant des dossiers que la police a déjà traités. D'autres sources indiquent que les auteurs de cette traite humaine opèrent en réseau avec des Tanzaniens qui accueillent ces enfants pour les transférer à ceux qui les utilisent dans ces travaux forcés et ajoutent que c'est un business très florissant. Pour le moment, ces 20 mineurs sont au chef-lieu de la province de Lutana en attendant qu'ils soient rapatriés dans leur province natale. 2 autres mineurs ont été interceptés par la police tanzanienne alors qu'ils étaient sur le sol tanzanien. Ils ont été acheminés à la frontière dans la commune de Mamanda. Ils sont soupçonnés d'avoir traversé la frontière dans ce même cadre du trafic humain. Ils sont pour le moment au chef-lieu de la commune Mamanda.
Merci Josine Kadze, deux membres du conseil d'administration de Kira Hospital, représentant l'actionnaire majoritaire SwissMed International, ont avoué par écrit qu'ils ont démissionné de leur poste d'administrateur par contrainte et des menaces de la part des autorités du pays. Dans une lettre sortie le 16 août 2022, ces deux administrateurs déclarent que les témoignages, écritures, actions et décisions réalisées par chacun d'eux à partir du 31 mars ne doivent pas être considérées parce que tout a été fait pour sauver leur vie. Pour Maître Gustave Nyonzima, ces révélations viennent encore prouver que l'affaire qui emprisonne Dr Christophe Sahabo est émaillée de nombreuses irrégularités. Suivez-le.
En date du 16 août 2022, deux grands actionnaires principaux qui représente SwissMed International Limited, qui est l'actionnaire majoritaire au sein de Kira Hospital, donc ont sorti une déclaration pour dire que leur démission est consécutive aux menaces, aux témoignages truqués, aux décisions forcées et à toute action contrainte sous la menace, sous la force du Service national de renseignement. Ces deux actionnaires sont docteur Jean-David Pilot et Xavier Martignon, qui ont osé prouver sans embâche que tout a été obtenu sous la menace et que, comme conséquence juridique, il y a la nullité de tout ce qui a été posé, de tout acte posé. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques la nullité ab initio ou la nullité ab ovo. Donc actuellement, on voit que même l'Assemblée générale qui avait été régulièrement convoquée en date du 1er avril 2022 et le Conseil d'administration convoqué en date du 31 mars 2022 ont été suspendus à cause des menaces, des contraintes de la force du pouvoir en place via des actionnaires des sociétés parapubliques téléguidées par le pouvoir en place. Dans cette déclaration, ces deux grands actionnaires, qui représentent même l'actionnaire majoritaire, déclarent que tous les témoignages, les décisions, les actions obtenues sous la menace deviennent caduques. Parce que même le président du conseil d'administration, qui était le docteur Jean-David Pilot, avait été menacé, son passeport avait été confisqué pour le contraindre de signer sa démission. Donc ils disent qu'ils ont démissionné sous la menace, que ça devient caduque.
Inzamba.
Parlons éducation à présent, c'est la grogne des parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. C'est suite à la hausse des prix des fournitures scolaires. Le prix d'un cahier à Muyinga a en effet augmenté de 300 à 500 francs burundais. Les parents demandent au ministère ayant le commerce dans ses attributions de réguler les prix du matériel scolaire. Plus de détails avec Pierre Gahungu.
Certains parents interrogés par la radio Inzamba ont dit qu'ils sont concernés par les prix exorbitants du matériel scolaire à la veille de la rentrée. Sur le marché central de Muyinga, un cahier de 100 feuilles coûte 2000 francs, alors que l'année passée, son coût variait entre 1500 et 1600 francs selon la qualité du papier. Un cahier de 60 feuilles s'achète à 1300 francs contre 900 à 1000 francs en 2021. Le cahier de 48 feuilles s'acquiert à 800 francs, mais il coûtait entre 500 et 600 francs l'année dernière. Le cahier de 36 feuilles s'achète à 700 francs contre 450 francs durant l'année scolaire écoulée. Un stylo de marque Bic coûte 500 francs contre 400 francs en 2021. Pour le petit stylo dit Obama, son coût est passé de 100 à 200 francs. Même chose pour le crayon. Les commerçants du matériel scolaire déclinent leurs responsabilités. Ils disent qu'ils achètent ces cahiers chez les grossistes à un prix exorbitant. La situation est comme telle, alors que la société Pacobu a sorti dernièrement des prix que les grossistes et les détaillants doivent respecter. Les parents sollicitent une intervention du ministère ayant le commerce dans ses attributions pour réguler ces prix à un niveau acceptable pour l'intérêt de tous. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas pu joindre par téléphone le conseiller économique du gouverneur de Muyinga pour qu'il s'exprime par rapport à cette hausse des prix du matériel scolaire.
Certains parents des élèves de la province du Lumbongé se lamentent aussi contre la montée des prix du matériel scolaire à la veille de la rentrée scolaire. La pauvreté dans les ménages, la montée des prix du ticket de transport sont d'autres problèmes auxquels font face les habitants de la province Lumbongé. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Le point avec Bella Mugisha.
Les problèmes dont les parents des élèves à Lumbongé font face sont notamment liés à la montée des prix du matériel scolaire, entre autres les cahiers et les uniformes. Selon eux, des prix ont sensiblement monté sur le marché. Le manque des produits pétroliers sur le marché a aggravé la situation. Le prix du ticket de transport a monté jusqu'au double de Lumbongé vers Bujumbura et vers d'autres provinces du pays, ce qui est inquiétant pour les parents dont les enfants doivent prendre des longs voyages. Ceci s'ajoute à la pauvreté qui sévit dans les ménages, comme celui-ci l'indique.
Les prix des produits de première nécessité ont sensiblement augmenté. Le constat fait est que les prix des cahiers et uniformes scolaires ont été majorés. Cela s'ajoute aussi à la misère que connaît beaucoup de ménages. Nous constatons donc que la rentrée scolaire prévue dans quelques jours sera un peu difficile pour nous les parents. Si possible, nous aimerions demander aux organisations qui apportent de l'aide aux personnes vulnérables de nous venir en aide.
D'autre part, il s'observe un problème de manque de matériel didactique, manque de salles de classe suffisantes selon certains enseignants. Un autre défi est qu'il y a des établissements fermés car le taux de réussite aux examens nationaux n'a pas été suffisant au cours de l'année passée. Les enseignants victimes ne savent pas sur quel pas danser à quelques jours avant la rentrée scolaire.
Toujours dans le domaine de l'éducation et pour boucler cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi demande qu'il y ait un cadre tripartite de dialogue composé par l'État, les syndicats et les employeurs afin d'étudier comment mettre en place de la nouvelle politique salariale. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, Antoine Manouma, président de la Fédération, a proposé que la politique salariale tienne compte de la cherté de la vie d'aujourd'hui. Il demande un dialogue permanent autour de cette question. Voilà, c'est par là que s'achève ce journal des journaux, la rétrospective de l'actualité de la semaine sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. Au revoir et à la prochaine.
Inzamba.
Inzamba la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.